Alors, dans l'évangile de Jean, il y a un axe, il y a comme un axe central. C'est le commandement que Jésus a donné à ses disciples. Il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est Jean 13, le verset 34. Et puis, dans la deuxième épître de Jean, eh bien, on retrouve cet axe très fort et même encore mieux ciblé et approfondi. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les 10 premiers versets de Jean. Ça fait quasi toute l'épître. Regardez le verset 1. Je lis. L'ancien à Kyria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Alors Jean écrit à une église locale qu'il connaît bien. Et il lui donne le nom de Kyria. En fait, dans la langue originale, Kyria, c'est le féminin de Kyrios. Un Kyrios qui veut dire Seigneur. Et dans ce verset, eh ben, Kyria, ça renvoie au Seigneur, ça renvoie au Christ, au corps du Christ et à l'Église qui est le corps du Christ. Alors, pour Jean, cette Église à qui il écrit, ce n'est pas directement la sienne, mais Jean est en relation avec plusieurs communautés, et puis cette Église, eh bien, elle le considère, disons, un peu comme un de ses anciens à distance. Cependant, Jean n'écrit pas seulement à cette église dans son ensemble. Il s'adresse aussi à l'intérieur de cette église, à chacun de ses membres en particulier. Il dit bien à Kyria l'élu et à ses enfants. Et regardez, que j'aime dans la vérité. Jean souligne la qualité de la relation qu'il a avec eux. Il y a entre lui et eux une communion d'amour véritable avec grand V. Avec grand V parce que cette communion, elle vient de Dieu. Et même ça ne s'arrête pas là. Cette communion d'amour, elle dépasse Jean. Et puis, elle dépasse cette communauté. Là, il y a aussi, dans cette communion, tous ceux qui ont connu la vérité, c'est-à-dire toute la grande Église. Alors du coup, intéressant, ce verset 1 nous montre comment nous devons recevoir cette deuxième épître de Jean pour la recevoir bien. Dans cette épître, le Seigneur s'adresse à chacun de nous en particulier, mais aussi à nous tous ensemble, en tant que peuple de frères et sœurs, unis dans une communion d'amour. Unis avec lui, le Seigneur, mais aussi unis nous tous ensemble. Et cela, c'est, regardez le verset 2, je lis, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Alors, cet environnement d'amour dans lequel nous sommes invités à vivre, c'est à cause de la vérité. Cette vérité, elle doit nous entraîner. Nous savons cette vérité, nous y croyons, et nous voulons ce qui est juste et vrai devant Dieu. Et ça doit nous entraîner comme une locomotive. Et cette communion d'amour dont parle Jean, justement, elle fait partie de cette locomotive, maintenant et aussi pour l'éternité. Et le résultat de tout cela, eh bien, le verset 3, je lis, « La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père dans la vérité et l'amour. » Alors, grâce, miséricorde et paix, il faut les prendre ensemble. Tout ce que nous recevons, hein, c'est des cadeaux qui viennent de Dieu, et par grâce, pas parce que nous les méritons. Et dans ces cadeaux, eh ben, il y a sa miséricorde, c'est-à-dire son pardon, et sa paix. Et puis là, très intéressant, regardez, ces choses seront avec nous au futur. C'est une promesse. Mais elle a un cadre. Ces choses seront avec nous dans la vérité et l'amour. Autrement dit, cette promesse, c'est pour autant que nous restions dans la vérité et l'amour comme défini dans les versets 1 et 2. Alors du coup, il y a ici pour nous un appel. Cet appel, c'est à entrer dans cette communion d'amour entre nous. Regardez. Jean s'adresse ici aux chrétiens d'une église locale, comme Cossonay. Et du coup, cet appel pour nous, eh ben, c'est avant tout nous aimer les uns les autres à l'intérieur de notre église locale. Et là, à partir de ce point, eh ben, Jean va nous donner deux enseignements. D'abord, les versets 4 à 6. Le verset 4, « Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Alors, Jean exprime son attachement à ces chrétiens qui marchent. Hein? Ça veut dire qu'ils sont en progression. Parce que Jean, il veut les aider à grandir. Et nous? Eh bien, nous aussi, nous avons à recevoir cette deuxième épître de Jean, hein, si on peut dire, en marche, de notre cheminement de croissance. Mais maintenant, marcher ici, c'est quoi? Eh bien, c'est être en chemin de manière accomplie. Et dans quelle direction? Eh bien, je lis, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et là, justement, écoutez le verset 5. Je lis le verset 5. Et maintenant, voilà. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Alors, regardez bien. Et maintenant, je te demande. C'est-à-dire, nous arrivons ici au point crucial. Et ce que Jean demande, ce commandement, eh ben, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Or, ce commandement, c'est, regardez, nous l'avons eu, ce commandement, nous l'avons eu dès le commencement. Ça veut dire, il fait partie de la parole créatrice de Dieu, au commencement. Car quand Dieu parle, il crée. Hein, c'est comme, par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est pareil en nous. Quand Dieu parle en nous, il se passe quelque chose en nous. Dieu nous crée plus loin de notre vie. Alors ça veut dire que ce commandement, il devrait être en nous et il devrait habiter toutes nos actions. Alors, très intéressant, ce commandement, l'amour de l'autre est spécialement l'amour de l'autre dans notre église locale, eh bien, c'est la source de notre croissance devant le Seigneur. C'est le début de notre vie devant le Seigneur. Bien sûr, le Seigneur nous aide, nous appelle à aimer tous ceux que nous rencontrons. Ceux qui sont autour de nous, comme le bon samaritain. Là, nous aimons avec relation d'humanité et de soutien, en tant que témoin aussi. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons prié pour tous ces gens et tous ceux qui entouraient les gens qui ont eu cette catastrophe dans le Valais. Mais dans ce texte, Jean nous parle d'autre chose. Il nous dit ce qui nous pousse à aimer les autres à l'extérieur. C'est d'abord notre amour envers les autres à l'intérieur. Hein? Il nous parle de nous aimer les uns les autres dans notre église locale. Parce que là, nous aimons avec relation fraternelle. Et ça, c'est l'origine de notre croissance devant le Seigneur. D'ailleurs, pour souligner, hein, Jean le redit encore d'une autre manière. Regardez le verset 6. Je lis, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Voilà pour le premier enseignement. Jusqu'ici, hein, Jean a exhorté ces chrétiens qui marchent à écouter le commandement fondamental du Seigneur et à le suivre. Et puis maintenant, deuxième enseignement, Jean va les mettre en garde contre tous ceux qui pourraient les détourner de l'écoute du Seigneur. Ça détruirait l'Église encore plus que l'indifférence entre frères et sœurs. C'est les versets 7 jusqu'à 9. Alors je lis le verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. En grec, hein, dans la langue originale du Nouveau Testament, eh ben, ce mot séducteur, il vient d'un verbe qui veut dire écarté du droit chemin, trompé. Alors ces séducteurs, eh ben, ils détournent les autres de leur foi. Et nous, en les écoutant trop, eh ben, on pourrait se faire embarquer. Et puis on arrivait à croire que ben, ce qu'ils nous montrent, c'est un chemin encore meilleur que celui qu'on a reçu, comme une sorte de super évangile annoncé par des super apôtres. Et là, on se ferait détourner sans même trop en avoir conscience. Ces séducteurs, ils ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Hein? C'est-à-dire, ils nient que Jésus est venu de l'extérieur. et qu'il a été envoyé par Dieu dans le monde, dans notre monde, hein, pour mourir à notre place dans une chair semblable à la nôtre. Ça, c'est Romains 8, le verset 3. Alors, c'est séducteur, comme on dit. Ben, ils disent que Jésus a peut-être bien existé, mais qu'il était seulement un prophète, un enseignant. Et ils disent que Jésus n'est pas mort pour nous et que nous n'avons pas besoin de son sacrifice pour être sauvés. Alors, ces séducteurs, eh ben, ils nient l'œuvre fondamentale de Jésus. Et du coup, ce sont peut-être, disons, de petits antichrists, hein, qui font l'œuvre du diable, qui lui est le grand antichrist et le grand séducteur. Remarquez d'ailleurs que dans ce verset, eh ben, le mot séducteur, il est une fois au pluriel et une fois au singulier. Et alors, écoutez le verset 8. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Alors, prenez garde. Le verbe grec ici signifie garder les yeux fixés sur, être attentif à. C'est-à-dire, prenez garde à vous-même, hein, afin de ne pas être entraîné du mauvais côté. Et puis aussi, eh bien, prenez garde les uns aux autres dans l'Église, afin de vous soutenir les uns les autres dans ce domaine. Et puis, le fruit de notre travail. En fait, l'apôtre Jean dirait, le fruit de notre travail, c'est de vous avoir montré la vérité avec grand V, et puis que maintenant vous fonctionnez dans une communion d'amour. Parce que dans une église locale, eh bien, quand les frères et sœurs sont en route dans cette communion d'amour avec le Seigneur et puis les uns avec les autres, eh bien, ils se soutiennent les uns les autres et ils se réchauffent les uns les autres. Mais s'ils laissent refroidir cette communion, eh bien, ils se refroidissent les uns par les autres. Et aussi, dirait l'apôtre Jean, eh bien, le fruit de notre travail, c'est que vous êtes convaincus que Jésus est le Sauveur. Et grâce à cette conviction, eh bien, vous restez imperméable à tous ces petits antichrists qui foisonnent à gauche à droite. Et puis encore, afin de recevoir, dans le texte, une pleine récompense. Ici en grec, le mot récompense est le même mot que salaire pour un travail accompli. C'est le salaire de la foi. Alors, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que je vis vraiment dans l'écoute du Seigneur? Et puis, est-ce que ma vie, dans ma vie, mes décisions, elles sont orientées vers l'amour des frères et sœurs, etc. Et ici, Jean nous donne un exemple de ces détourneurs de foi, hein, dont nous avons parlé. C'est au verset 9. Je lis le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Alors, aller plus loin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est essayer de percer la révélation que le Seigneur nous a donnée. Hein? Ça veut dire, c'est chercher à deviner des choses que Dieu ne nous a pas dites, à force de méditation, de réflexion ou de calcul. Hein? Petit exemple, pensez rien qu'à ceux qui, ces dernières décennies, ont proclamé qu'ils avaient réussi à deviner l'avenir à partir de calculs sur la base des prophéties bibliques. Hein? Moi, j'ai vu passer plusieurs fois la fin du monde. Ça, c'est un exemple de celui qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ. Et ce verbe « demeurer », il signifie « rester, être fixe, habiter ». C'est le contraire du voyageur qui s'arrête et qui repart. Ici, ce voyageur, hein, ça serait celui qui reçoit l'enseignement de la Bible et il y croit. Il y croit, mais ça ne lui suffit pas. Alors, il cherche plus loin et il se met à papillonner de doctrine en doctrine et d'enseignement en enseignement. Demeurer dans la doctrine du Christ, ça veut dire garder l'enseignement qui montre comment vivre et rester en communion avec le Seigneur sans aller plus loin. Et alors, regardez le texte. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Là, on touche à la racine de notre vie spirituelle. D'un côté, dans la prière, quand je parle au Père, hein, je parle à celui qui a créé toute chose, qui a fait alliance avec nous et avec moi, et qui a établi ses règles et ses bénédictions. Et le Père me montre le chemin. Et d'un autre côté, dans la prière, quand je parle au Fils, eh bien, je parle à Jésus, je parle à celui qui m'a libéré de mes péchés et qui m'accompagne sur le chemin de Dieu. Et Jésus me guide sur ce chemin et il ouvre les portes. Et alors, conséquence de tout cela, le verset 10, je lis, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. » C'est un peu fort, mais il faut bien regarder le texte. Souvenons-nous que Jean parle ici à une église locale. Du coup, en fait, il veut nous dire, si quelqu'un vient à vous dans votre église pour vous enseigner non pas cette doctrine, mais une autre, hein, que précisément celle-là que nous vous avons enseignée, eh bien, ne l'écoutez pas. Ne lui donnez pas la parole au milieu de vous dans l'église. Et Jean va même plus loin. Il dit, ne lui dites pas salut. Alors ça veut dire quoi? C'est pas ne pas dire bonjour monsieur. Ça veut, en grec, le mot traduit ici par salut, il vient d'un verbe qui signifie être joyeux, avoir sujet de se réjouir. Donc, dire salut à quelqu'un de cette manière, ça serait lui dire « Oh, je suis content de te voir, merci de venir et je me réjouis de tout ce que tu vas m'enseigner. » Alors, en fait, j'en veux dire, n'entrez même pas en communion avec quelqu'un qui tient absolument à vous apporter une autre doctrine que celle que vous avez reçue. Voilà pour le deuxième enseignement. Alors je conclue. Dans sa deuxième épître, l'apôtre Jean nous appelle à nous aimer les uns les autres. Mais cela, avant tout dans notre église locale. Bien sûr, aimer celui que je rencontre par hasard dans la rue, et l'aider si nécessaire. Mais avant tout, aimer mon frère et ma sœur qui sont chemin à côté de moi dans l'Église. Et nous avons relevé dans notre texte deux points importants. D'abord, Jean s'adresse ici aux chrétiens qui sont en progression. Et il montre que ce commandement de nous aimer les uns les autres dans notre Église locale, eh bien, il fait partie de la parole créatrice de Dieu. Et ce commandement, c'est la source même de notre croissance devant le Seigneur. Alors, il devrait être à l'origine de toutes nos initiatives et toutes nos relations humaines. Ensuite, Jean nous met en garde contre ce qu'il appelle les séducteurs. Hein, parce qu'eux, ils pourraient carrément nous détourner de notre foi que Jésus est venu dans le monde pour mourir à notre place. Et là, comme exemple, eh bien, Jean parle de ceux qui essayent de dépasser la révélation que le Seigneur nous a donnée. Hein, trop les écouter pourrait nous amener à vouloir dépasser ce qu'on a reçu, puis à perdre un peu la relation qu'on a avec Jésus et avec le Père. Et l'apôtre Jean nous dit, nous vous avons montré la vérité avec grand V. Ça fait que dans votre église locale, ici à Cossonay, d'une part, vous fonctionnez dans une communauté d'amour et vous vous réchauffez les uns les autres. Et puis d'autre part, vous êtes convaincus que Jésus est le Sauveur. Ça, c'est le fruit de l'Évangile. Et ainsi, vous restez imperméable à tous ces petits antichrists qui foisonnent autour de vous dans le monde. Alors, attention de ne pas perdre la récompense qui vous a été promise. Cette récompense est le salaire de votre foi et de votre engagement. Prenez donc garde à votre comportement. Hein, prenons garde à notre comportement les uns vis-à-vis des autres, spécialement dans l'église locale. Et soutenez-vous les uns les autres. Ça veut dire prendre conscience de ceux qui sont chargés autour de moi dans l'assemblée et voir ce que moi je pourrais faire pour eux, pour les soulager. Et puis le faire avec la force et l'amour de Dieu. Ça aussi, ça fait partie du chemin de Dieu pour moi. Alors, si on veut dire tout ça en trois phrases, la deuxième épître de Jean nous a été donnée par le Seigneur spécialement pour notre croissance personnelle. Fondamentalement, la source de cette croissance, eh bien, c'est l'amour que nous portons les uns aux autres au sein de notre église locale. Alors, soyons attentifs à notre comportement entre nous et n'hésitons pas à nous soutenir les uns les autres. Nous prions. Seigneur, merci pour l'assemblée que tu nous as donnée, pour l'église que tu nous donnes ici à Cossonay. Merci pour tout ce qui a été vécu et ce qui sera vécu encore, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier dans nos relations les uns avec les autres, de nous montrer ceux qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'un soutien de notre part. Montre-nous ceux qui sont chargés. Aide-nous à faire ta volonté les uns vers les autres à l'intérieur de cette église. Amen.